Bonjour et bienvenue à Point de vue, ici Boris Chassagne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire aujourd'hui, les élections municipales du mois de novembre dernier ont brassé les cartes des villes et municipalités du Québec, si bien que la ville de Montréal sera pour la première fois de son histoire, dirigée par deux femmes, la mairesse Valérie Plante, mais aussi par sa numéro 2, Dominique Olivier, elle devient la présidente du conseil exécutif d'une ville qu'elle avait dans sa mire depuis l'âge de 6 ans.
Je suis allée chez mon dentiste et il me parle pendant qu'il fait, j'imagine, un nettoyage ou je sais pas quoi, et il essaye de me distraire et il me dit « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grande? » Et moi, je réponds « Je vais être maire de Montréal. » Alors, bien sûr, c'est accueilli avec un immense éclat de rire.
On se tourne vers l'Alberta, qui est devenu le nouvel Eldorado de l'immigration internationale francophone. Ces nouveaux arrivants retombent non seulement les deux pieds sur terre, mais dans le monde agraire.
Moi, j'ai étudié pour la grande culture, on appelait ça à l'époque. Pour ça que je suis venu ici, et parce que aussi, c'était une communauté francophone aussi.
Le musicien acadien Trevor Murphy retrouve ses origines et sa faculté d'écrire, de penser et de chanter en français après une vingtaine d'années plongées dans la culture anglophone.
On est un peuple, mais on n'a pas un pays. Pour presque 20 ans, je ne parlais pas français, mais je me sentais encore acadien, tu sais. Pour moi, on est chanceux de pouvoir réclamer une identité puis être progressif avec nos idées de ce qu'on veut être et ce qu'on peut être.
Bienvenue à Point de vue. On effectue cette semaine notre premier arrêt à Montréal, au Québec, où nous attend notre journaliste Sophie Stanké. Sophie, qui a eu la chance de mettre la main sur la très occupée Dominique Olivier. Madame Olivier, qui a lors des élections municipales du 7 novembre dernier, en fait en 2021, été élue conseillère municipale. Et la mairesse Valérie Plante, à qui la population a confié un second mandat de 4 ans, en a fait son bras droit en la nommant présidente du conseil exécutif de la ville de Montréal. La ville est donc de ce fait dirigée pour la première fois de son histoire par deux femmes. Madame Olivier a un riche parcours, elle possède de plus de 30 ans d'expérience de travail en gestion de projets et d'organismes ainsi qu'en communication, elle qui a notamment été présidente de l'Office de consultation publique de Montréal. Madame Olivier affirme que ses priorités seront d'assurer une saine gestion du budget, des ressources et de la main-d'œuvre pour la transition écologique de la ville de Montréal. C'est d'ailleurs bien sûr le mandat qui lui est confié. Mais comme on va l'entendre, ce poste, elle le convoitait en fait depuis sa tendre enfance. Dominique Olivier, fille d'immigrants haïtiens arrivés au Québec dans les années 60 et dans une région où l'immigration se faisait assez rare à l'époque, on vous présente donc ici un court extrait de cette longue et belle entrevue de 20 minutes livrée au micro de Sophie Stanké.
Moi, je suis née en Haïti. Je suis arrivée ici. Mes parents ont immigré en 1965, je pense, de mémoire. Moi, je suis née en 64, donc c'est point des besoins de vous dire que je ne m'en souviens pas. Mon père était l'écrivain Émile Olivier, bien connu dans la communauté haïtienne. Oui. Ma mère était un professeur à l'époque de secondaire, puis de cégep en littérature française. Mais mes deux parents étaient des gens très impliqués. Ils ont quitté Haïti suite à la grève des étudiants dont ils était partie active. Mon père a même été emprisonné pour ses convictions sous Papadoc. Alors, il a vraiment dû quitter le pays. Et dans leur tête, ils venaient... Alors, mon père avait cette expression, il disait « On va se mettre à l'abri de la pluie ». Donc, pour eux, c'était vraiment quelque chose de temporaire. Ils venaient ici...
C'est très joli.
..au Québec et ils ont été... des éponges. Alors, moi, j'ai grandi dans ce milieu, puis en plus, on est arrivé en Abitibi. Donc, point n'est besoin de vous dire, on est vraiment imprégnés, on est les seules personnes noires là. Et très rapidement, les amis de mes parents sont venus s'installer à Amos aussi, ce qui fait que quand nous, on quitte au début des années 70, ils sont déjà presque une douzaine de familles. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça dans l'idée. Et moi, je grandis dans une famille qui est très militante politiquement, qui milite pour le droit de parole, pour avoir des conditions qui, pour tout le monde, sont plus intéressantes, qui pensent beaucoup au bien collectif. Mais aussi une famille éprise de littérature, éprise de sciences politiques, de philosophie. Alors...
Donc, très riche intellectuellement.
Très riche intellectuellement. Et moi, je suis enfant unique. Donc, je traîne derrière mes parents, derrière leurs amis exilés, derrière, justement, dans leur profession. Ils sont professeurs, donc, de littérature, de philosophie. Donc, tu sais, je suis vraiment baignée, j'ai vraiment baigné dans ce milieu-là. Et je dirais que l'anecdote la plus drôle, enfin, moi, c'est un souvenir qui est flagrant chez moi. Je me souviens, je suis allée chez mon dentiste. Il me parle pendant qu'il fait, j'imagine, un nettoyage ou je ne sais pas quoi. Et il essaye de me distraire. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grande? Et moi, je réponds, je vais être maire de Montréal.
C'est pas vrai.
Oui. Alors,
c'est pas vrai.
Je veux qu'on s'en souvienne.
Mais vous aviez quel âge?
J'avais 6 ans.
Mais c'est incroyable.
Je veux qu'on s'en souvienne.
C'est incroyable.
Parce qu'à l'époque, pourquoi moi ça me frappe aujourd'hui, c'est parce qu'à l'époque, il n'y a aucune femme qui siège au conseil de ville.
Mais c'est fantastique.
On est sous le maire drapeau, mais il n'y a personne qui siège comme femme. Et il n'y a personne. Et il va falloir attendre l'élection de 94, si ma mémoire est bonne, pour que Kathleen Beauregard soit la première femme noire à faire son entrée.
Tout à fait.
Alors, bien sûr, c'est accueilli avec un immense éclat de rire. Et je vous dirais que c'est peut-être la première fois. Je pense que c'était
mais
pas méchant.
Mais vous étiez de toute façon sérieuse, là. Quand vous avez
j'étais
dit ça,
très
c'était,
sérieuse.
C'était pas dire n'importe quoi. C'est pour impressionner, vous étiez sérieuse.
Ah, j'étais très sérieuse. Dans ma tête, ça me semblait être ça. J'ai fait des recherches récemment, puis ça va vous faire rire encore plus. C'est vraiment l'année où le droit de vote universel à Montréal, c'est-à-dire quand je dis universel, c'est-à-dire de tous les citoyens avant ça, on n'avait pas le droit de vote de tous les citoyens. Donc, c'est la première fois que le maire de Montréal va être élu au suffrage universel. Et j'ai l'impression que j'ai dû voir des publicités à la télé ou des trucs dans les journaux qui m'ont comme convaincue que si tout le monde pouvait voter, ben moi aussi, je pouvais
Mais
y arriver.
Mais est-ce que... Parce que, je veux dire, la pomme tombe jamais très loin de l'arbre. Est-ce que votre père, votre mère était féministe? Est-ce qu'elle vous sentiez, est-ce qu'elle vous parlait de la différence de poste des femmes, l'importance de est-ce qu'elle l'était?
Ma mère était une féministe bien avant l'heure. Je peux vous raconter une autre anecdote. Quand elle arrive en Abitibi, on lui donne un poste et on lui annonce qu'elle va gagner 1 500 $ de moins par année que son mari. Et elle dit, est-ce qu'il a plus d'étudiants que moi? Non. Est-ce qu'il a plus d'heures de cours que moi? Non. Mais lui, il est chef de famille. Elle dit, je vais m'asseoir chez moi, je ne viendrai pas enseigner pour 1 500 $ de moins pour faire la même
Bravo.
Job. Alors ça, je vous dis, on est en 1965.
Wow.
Donc,
wow.
Tu sais, je grandis vraiment dans une famille très, très, très militante sur l'équité, sur les droits, sur la liberté d'expression. Et je pense que...
Mais c'est ça, ça vous a influencé, parce que pour sortir ça à l'âge de 6 ans, et puis alors qu'il n'y avait pas de femme nulle part et tout, vous avez 6 ans quand même, quand vous dites que vous êtes une mairesse, il y a donc vos parents, vous ont, ça c'est clair que vos parents vous ont... Et votre mère, féministe avant l'heure.
Oui, oui, m'ont beaucoup influencé. Et je raconte toujours cette histoire-là parce que quand les gens doutent, quand on parle des jeunes, des groupes racisés qui vivent des microagressions, moi, je raconte toujours cette histoire-là parce que pour moi, c'est important. C'est de dire que déjà, à ce moment-là, je me voyais dans un certain rôle de leadership. Mm-hmm. Et si on fait un fast-forward 10 ans plus tard, au moment où je rentre au cégep, j'ai 16 ans, 17 ans, je dirais 16, 17 ans, et là, je ne veux plus rien être dans la vie. Je veux être la personne la plus ordinaire possible.
Non.
Oui, absolument.
Mais
moi, je pense que c'est à coup de rêves brisés. C'est un peu ça que je dis. Je dis, c'est jamais des choses méchantes, mais c'est tout ce sentiment que t'es pas à ta place. Je suis dans une école où on est 2 filles noires dans toute l'école. Tu sais, tout le temps, on te renvoie à une certaine différence. Je ne veux vraiment pas dire que c'était du racisme, bien au contraire, c'était des choses pas méchantes, mais c'est des façons de te renvoyer ton image de
c'est
toi.
C'est subtil, mais ça fait mal.
Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que le terme microagression explique comment est-ce qu'on peut tuer les rêves.
Ces rêves, Dominique Olivier les a, comme vous l'avez entendu heureusement, retrouvés depuis. Donc, toute l'entrevue avec Sophie Sanquet sur canada-info.ca.
Bonjour, ici Julie Desalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
Des rêveurs comme Dominique Olivier, il y en a partout, notamment dans le secteur de l'agriculture dans le nord de l'Alberta. L'agriculture qui est devenue une belle porte d'entrée pour certains des immigrants francophones venus de l'étranger, d'autant que le secteur agricole albertain du nord de la province en recrute depuis les années 1990. Les Français Bertrand de Chanterac et Benoît Crapier sont du nombre. Ils travaillent tous les deux dans le secteur d'agriculture là-bas. Le premier est d'abord arrivé au Québec en 2021, mais l'appel de l'Ouest canadien l'a emporté. Il va d'ailleurs y poser ses valises avec son frère en avril 2021. Le Français Benoît Crapier l'avait précédé, lui qui est depuis devenu citoyen canadien. Il a déjà passé plus de 20 ans en Alberta. Alors chacun raconte ses débuts et comment ils envisagent l'avenir. Au micro de Hélène Lequitte, notre journaliste IJL à Rivière-de-la-Paix en Alberta.
Benoît Crapier, 48 ans, originaire de la Picardie, est arrivé, lui, en 1998. Employé agricole depuis de nombreuses années, c'est par l'entremise d'un stage qu'il a foulé le sol albertain pour la première fois.
De là où je viens, ils encourageaient les jeunes d'aller voir autre part que qu'est-ce qui se passe à la maison. Et en fin de compte, bon, j'ai choisi le Canada donc pour faire un stage dans le domaine agricole. Et il y avait une organisation en France, justement, qui s'occupait de tout ça. Pourquoi l'Alberta? C'est parce que l'organisation faisait en fonction de ce qu'on a étudié auparavant dans une école agricole. Moi, j'ai étudié pour la grande culture, si on appelait ça à l'époque. C'est pour ça que je suis venu ici. Et parce que aussi, c'était une communauté francophone aussi.
L'immigration francophone, qu'elle soit temporaire ou permanente, recèle aussi son lot de différences culturelles, notamment dans le domaine de l'agriculture. Arrivé en 2021 en Alberta, Bertrand de Chanterac, qui vit à Tangente près de Falaire, nous en raconte quelques-unes.
C'est assez différent, on n'a pas du tout la même approche avec la France, c'est quand même très différent. Avec les personnes, la façon dont elles interagissent, il faut être très patient. Les agriculteurs ici sont soumis à beaucoup, beaucoup de pression, c'est courte période et beaucoup de choses à faire. Donc la pression revient sur nous, donc il faut être avoir beaucoup de patience. J'ai appris à être plus patient ici. Ils s'énervent très vite. Ça, l'agriculture ici, plus qu'en France. Et donc, il faut savoir gérer ça, gérer le stress plus que d'habitude. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent en jeu ici, encore plus. Et ils sont ici, par rapport à la France, l'agriculture, sur un terme agricole, on va dire, c'est que ici, ils n'ont qu'une saison. En France, on en aura deux. Donc, s'il y en a une qui va mal en France, on en aura toujours une autre qui pourra rattraper les choses. Ici, si ça se passe mal, dès le début, et ben, ils savent qu'ils vont perdre plusieurs millions de dollars, donc ça, c'est très vite des pertes impressionnantes. Donc leur morale et leur façon d'agir est très influencée par ça.
Parmi les différences culturelles, le Canada est un pays qui laisse aussi une marge de manœuvre, notamment pour ceux qui ont l'esprit d'entreprise, comme en témoigne Benoît Crapier, devenu depuis citoyen canadien.
Depuis que j'habite ici au Canada, regarde l'administration, comment qu'en France ça se fait, et c'est vrai que des fois c'est décevant. On a dit, comment les gens peuvent y arriver? Il y a toujours quelque chose, il y a toujours non, on ne peut pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Ici, je trouve qu'on a une certaine liberté. Hein.
Une liberté de faire combinée avec l'exigence d'apprendre dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes. Le Canada, c'est aussi ça, une expérience personnelle, mais aussi une expérience professionnelle qui permet de sortir de sa zone de confort. Bertrand de Chanterac compte encore, lui, voyager de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Amérique du Sud avant de rentrer en France et dans l'idée de peut-être revenir.
S'il y a un endroit où je repartirais, ce serait sans doute au Canada. Oui, en Alberta, je pense. Oui. Moi, j'aime bien, je préfère la mentalité, la façon de faire de l'Alberta que des autres régions.
Quant à Benoît Crapier, après 23 ans passés au Canada, si sa vie professionnelle est bien ici, il garde toujours un peu le mal du pays. Hélène Lequitte, Nord-Ouest FM.
Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Bon, vous nous direz. dirait qu'on n'a pas trop le sens de l'orientation, car là, on vous amène de l'ouest à l'est, rencontrer en Nouvelle-Écosse l'artiste et musicien acadien Trevor Murphy. Il vient de lancer son album intitulé Sluice. Je ne sais pas si je le prononce correctement, ça s'écrit S-L-U-I-C-E. Un nouveau disque qui lui a valu d'être récompensé par deux fois en 2021 par Music Nova Scotia. Il s'est notamment mérité le prix d'artiste acadien francophone de l'année, un prix important aux yeux de Murphy, non seulement parce qu'il lui a été remis par ses pairs, par des gens qu'il estime, mais aussi parce que cet album représente pour lui une espèce de retour aux sources, une manière de se réapproprier sa culture acadienne. Installé à Halifax depuis 2003, Trevor Murphy a vécu toute son enfance dans la région d'Argyle, le pays d'en bas, comme on dit, et comme tant d'autres jeunes néo-écossais en quête d'intégration dans le milieu majoritairement anglophone de la région, il ne s'est jamais vraiment intéressé à la culture acadienne. Seule la passion de la musique pouvait le ramener à ses origines. C'est la concrétisation d'un projet musical, Sluice, lancé il y a deux ans, qui le replonge donc dans l'histoire de l'identité acadienne. Après 20 ans de carrière, c'est la toute première fois que Trevor Murphy prend le temps de se consacrer à la composition de chansons dans sa langue maternelle. Trevor Murphy, souriant, a confié à notre journaliste, « Ce prix est une reconnaissance qui vient valider une année de travail et de mise en valeur de la culture. J'en suis fier », dit Murphy. Il est donc de retour au micro de notre journaliste Sébastien Beltran en Nouvelle-Écosse.
J'ai grandi dans une région acadienne au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, une région qu'on appelle Paramba. C'est une collection de communautés acadiennes qui s'entourent de la ville de Yarmouth. Presque toute ma vie se passe en anglais, puis par chez nous, comme peut-être vous pouvez entendre, l'accent, c'est un peu différent. Les Acadiens ont des accents un peu plus dépendants de où tu viens. Vos accents sont différents. Mais par chez nous, je pense, dans la région de Paramba, on a grandi avec un sens de gênement par rapport à notre accent et la façon qu'on parle. Donc, c'était très facile de laisser ça à côté après que tu déménages dans une grande ville comme Halifax. Donc, quand j'ai commencé à retrouver ma connexion avec la langue, c'était aussi au même temps dans les années où on avait commencé un petit record label qui s'appelait Acadian Embassy. Puis, à travers ce label-là, on explorait c'est quoi ça veut dire d'être un Acadien, c'est quoi ça veut dire surtout d'être un Acadien de la Nouvelle-Écosse, puis un Acadien de par en bas. On explorait l'idée de l'identité tout en comme mettant la poche de la langue à côté un peu. Mais à un moment ou un autre, j'ai décidé qu'il allait falloir, que j'allais avoir besoin d'écrire des chansons en français. Donc, ça a vraiment commencé en 2015 avec le groupe Choir Parade, un projet qui était présenté à nous par la FECAN, de faire une reprise d'une chanson acadienne. Donc, c'était vraiment la toute première fois que j'ai essayé de même chanter en français. Puis de là, j'ai fait un projet de traduction avec le groupe où on a pris quatre chansons d'un album anglophone qu'on a lancé dans la même année, dans 2015. Puis on a réenregistré les paroles pour quatre chansons en français. Puis de là, comme plusieurs années là, c'était un moment ou un autre où j'ai décidé, OK, il faut maintenant où je suis dans le moment où je me trouve comme plus confiant, je me trouve plus capable même de parler français, puis de trouver la volonté, puis l'ambition de vouloir créer quelque chose artistique dans cette langue, que j'ai commencé à travailler sur un projet que j'ai appelé Sluice. C'est vraiment la première fois où j'ai commencé dès le début à écrire des chansons en français, puis à faire un projet qui était complètement francophone. Puis c'est pour le travail sur cette œuvre-là où j'ai reçu le prix de Music Nova Scotia pour artiste francophone acadien de l'année. So, c'était une très bonne culmination de beaucoup, beaucoup d'années de travail que moi j'ai fait personnellement.
Love you. disais à l'instant que ce qui alimentait ton inspiration, ce qui te guidait, c'était la question des origines. Qu'est-ce qu'être acadien? Qu'est-ce qu'être néo-écossais? Alors, est-ce que tu as trouvé une réponse à cette question?
Non, je pense pas, mais je pense que la réponse, c'est vraiment que les Acadiens sont très éclectiques. Puis c'est ça qui est si tant belle à propos de la culture acadienne, c'est que ce n'est pas un monolithe, que c'est beaucoup de choses pour... Et c'est des différentes choses pour différentes personnes. Donc, que ce soit la nourriture, la musique, la culture en gros, la façon qu'on parle, il y a des petits éléments qui font ça comme être un Acadien. Mais c'est plus intéressant de savoir que, tu sais, c'est une version de nationalisme, tu sais. Puis on n'a pas une nation, on est un peuple, mais on n'a pas un pays. Donc, c'est comment est-ce qu'on travaille dans ce domaine-là. C'est, pour moi, j'aime beaucoup les conversations philosophiques et sociologiques. Donc, ça m'intéresse beaucoup de comment est-ce qu'on parle de nous-mêmes puis comment est-ce qu'on on a reçu un sens d'identité. Parce qu'on sait, par exemple, que c'est très important, l'histoire des Acadiens ici en Nouvelle-Écosse, la déportation puis tout ça, puis le retour... mais aussi, comme c'est pas juste ça. Ça, c'est un élément. Puis la langue francophone, surtout, c'est un élément de l'identité acadienne. Mais pour presque 20 ans, je parlais pas français, mais je me sentais encore acadien, tu sais. Pour moi, ce que j'apprécie d'avoir les conversations sur l'Acadie puis l'identité acadienne, c'est que j'ai vu ça tout récemment. On est chanceux de pouvoir avoir ces conversations-là. On est chanceux de pouvoir réclamer une identité puis être progressif avec nos idées de ce qu'on veut être et ce qu'on peut être. Puis, tu sais, il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. So, pour moi, oui, c'est une longue réponse qui n'a pas de réponse là. Mais ça m'intéresse à tous les jours de même découvrir plus à propos non seulement les racines, mais le futur. C'est ça qui m'excite beaucoup, c'est le futur de l'Acadie.
On va revenir un petit peu sur ce qui t'a mis dans la lumière des projecteurs. C'est ton projet SLAUS avec les deux récompenses qui ont été attribuées début novembre. Peux-tu nous dire comment est venue l'inspiration pour mener à bien ce projet?
Oui, ça commençait vraiment à cause que dans mon groupe anglophone, on a un horaire très spécifique. Là. On travaille comme des professionnels, donc à chaque semaine, on se met ensemble puis on travaille comme groupe. Mais il y avait un moment où le gars qui joue la guitare dans ce groupe anglophone-là, lui puis sa femme était enceinte. Donc, on prévoyait un temps où on allait prendre un petit break. Ben moi, comme artiste, comme créateur, je ne pouvais pas comme juste prendre un break. So, j'ai dit, OK, c'est ça le moment où je vais commencer à écrire des chansons ou essayer d'écrire des chansons en français parce que franchement, je ne l'avais jamais fait. Donc, je sais que je pouvais écrire des chansons puis écrire des paroles, mais se faire en français, c'était j'ai approché cette idée-là vraiment comme un expériment. Est-ce que je peux faire ça? Puis quand j'ai commencé à écrire les chansons qui s'en venaient, parce que mon expérience avec la langue puis avec la culture acadienne était vraiment basée dans ma jeunesse puis dans la région où j'ai grandi, j'ai trouvé qu'à mesure que j'écrivais des chansons, que beaucoup de ces chansons-là étaient liées vraiment, vraiment ancrées dans la région où j'ai grandi. Puis non seulement pas comme dans les paroles, mais aussi dans la façon dont que je parlais. Donc, quelque chose que c'était vraiment important pour moi en approchant le projet, c'était de ne pas faire des compromis, des compromis sur la façon que je parle. Parce que c'est vraiment comme cette idée-là qui m'a poussé hors de la volonté de vouloir parler français. La pensée que la façon que je parle, c'est pas bon assez. Nos mots sont un peu weird. Puis même mon accent, il y a un tinge d'anglais là-dedans. Donc, je voulais vraiment rester fidèle à la façon que je parlerais à mes parents, par exemple, ou à mes amis de cette région-là. Puis tout en faisant ça, décrivant une histoire ou des histoires de la région où j'ai grandi. Parce que comme des Acadiens dans le domaine de musique, il y en a plein. Il y en a beaucoup, surtout de la région de Nouveau-Brunswick. Puis ici en Nouvelle-Écosse, il y a beaucoup de musiciens de la région de Chéticamp puis la région de la Baie-Sainte-Marie. Mais il n'y en a pas beaucoup de la région de Paramba. Donc, on ne se voyait pas dans la culture acadienne comme des gens de Paramba. So, pour moi, c'était à mesure que les chansons arrivaient, je me formulais une idée de OK, ça que j'aimerais vraiment faire avec ce projet ici, avec Sluice, c'est de mettre l'identité de Paramba en avant, puis le mettre sur la map quand on fait des choses pour pouvoir parler de la région, parce que c'est la région non seulement. Tu sais, une région très ancienne, mais c'est la région encore plus, qu'est-ce qu'ils disent, la région la plus ancienne encore acadienne dans tout le pays. Donc, il y a vraiment une longue histoire des gens de la région d'où je viens, mais il y a pas beaucoup de gens qui savent c'est même où la région de Paramba. Ça, c'était comme un peu d'une mission pour moi de dire, hey, les Acadiens de Paramba sont très importants dans la culture des Acadiens, puis dans l'histoire des Acadiens, puis on s'entend pas parler d'eux vraiment beaucoup. Donc, c'était comme un projet personnel pour moi de faire un retrouvaille sur ça pour moi-même, mais d'essayer d'apporter des gens sur cette journey avec moi de découverte. Oui, moi-même, ça, c'est un peu surprenant que je suis dans cette position maintenant, étant donné la personne que j'étais 20 ans passé. C'est vraiment cool pour moi de pouvoir réaliser que, pour moi, le prix, ça veut dire, c'est non seulement pas comme pour le travail musical que j'ai fait avec ce projet-là, comme, obviously, pour Musique Nova Scotia, c'est ça que le prix est destiné pour, mais moi aussi, je lis ça, je reçois ce prix-là comme un peu d'un récompense pour le travail personnel que moi, j'ai fait sur moi-même aussi.
Merci Trevor, merci pour ce témoignage vraiment touchant. On sent bien ton amour pour l'Acadie dans cette entrevue. On espère que tu continueras à nous transmettre tes émotions dans les chansons et on t'attend le plus rapidement possible pour partager tes futurs projets.
Oui, merci beaucoup pour l'opportunité de parler de tout ça.
Le site Immigration francophone Nouvelle-Écosse nous apprend, et je le cite, que la région de Paramba embrasse le pourtour de la magnifique baie des Homards dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, avec 6240 habitants d'expression française sur une population totale estimée à 9000 personnes. Le Paramba est l'une des deux régions de la province, l'autre étant celle de Clare, où les francophones sont majoritaires. Voilà qui complète cette édition de Point de vue, une émission produite par l'Initiative de journalisme local et présentée par le Fonds canadien de la radio communautaire. Découvrez toutes nos nouvelles sur canada-info.ca. Nos reportages en deux langues y sont postés au quotidien. Ce qu'on présente d'ailleurs ici à l'émission ne représente qu'une infime partie de ce qui est produit par nos journalistes. Ces reportages nous permettent de découvrir le Canada dans son entier, d'avoir un autre point de vue sur nos communautés locales. Retrouvez-nous aussi sur nos médias sociaux et notamment sur Twitter, @CanadaLJI. Merci à nos journalistes Vincent Savard, Sophie Stanquet, Sébastien Beltran, Judy Dessalliers, Hélène Lequitte et leurs invités, à notre coordonnateur national de l'info Stéphane Bénard. Ici Boris Chassaigne, merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.
time to play. CKUT is having a funding drive. CKUT is your community radio supporting events, culture, and shows, and playing the music you wouldn't even know you liked unless you heard it here. Give us a call, 514-907-9424, and give what you can.
Bonjour, bienvenue à Point de vue, ici Boris Chassagne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire de l'émission, elle quitte le Congo à l'âge de 3 ans avec ses parents et 30 ans plus tard devient la mairesse d'un arrondissement de Montréal, le parcours inspirant de Gracia Kasoki.
En fait, c'est important pour moi de ne pas me lancer en politique. Pour me lancer en politique, pour être au pouvoir, je trouvais que ce n'était pas une bonne raison de se lancer. C'était important pour moi de, lorsque j'allais le faire ou si je le faisais, de le faire parce que je pensais que ma présence dans un poste politique allait vraiment avoir une valeur ajoutée.
Yves Letellier aime bien se faire un petit drink quand il n'est pas sur son bateau et de les rafraîchir aussi avec de la glace d'iceberg qu'il garde jalousement dans son congélateur. Pur plaisir.
Je trouve ça tellement fantastique de boire de l'eau d'iceberg. Là. Quand tu le casses, le bruit que ça fait aussi, là, c'est pas comme de la glace que tu as dans ton congélateur, là, pas du tout. Là.
Et une initiative du gouvernement du Nouveau-Brunswick pourrait faire tâche ailleurs au pays. Le site web éducatif Lieu plus sûr Nouveau-Brunswick est lancé avec l'objectif de freiner le harcèlement sexuel en milieu de travail.
Les sortes de harcèlement sexuel ne sont pas toujours identifiées comme harcèlement sexuel. Il y a des sortes de comportements, les commentaires et les gestes qui ne sont pas toujours traités comme un problème dans le milieu de travail.
Bienvenue à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Née en République démocratique du Congo, la jeune Gracia a 3 ans lorsqu'elle immigre en banlieue de la ville de Québec. Dans son travail d'infirmière et de gestionnaire en santé, Gracia Kasoki-Katawa défend un système de santé à échelle humaine et elle fait de ce combat une lutte politique. Eh bien, ça lui réussit. Elle est élue mairesse le 7 novembre 2021 avec le parti Projet Montréal. Elle devient la première femme noire à occuper le poste de mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce dans le nord-ouest de la ville. Après un baccalauréat à l'Université Laval, Gracia Kasoki-Katawa obtient sa maîtrise en administration publique. Par la suite, elle multiplie ses actions sociales jusqu'à entrer au conseil d'administration de l'Ordre des infirmières en 2018 et elle finit par se lancer en politique en 2021. J'ai grandi avec des personnes qui étaient toujours en train d'aider les autres, pas parce que c'est leur job, mais parce que c'est leur façon d'être, dit-elle. J'ai appris beaucoup de mon métier d'infirmière. C'est d'abord une fierté et une responsabilité pour moi que de servir la communauté, nous dit Gracia Kasoki. Gracia Kasoki-Katawa, nouvelle mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, qui est au micro de Sophie Stanquet.
Je ne savais pas nécessairement que c'est un parcours qui me prédestinait à être impliquée en politique, mais c'est clairement un parcours d'une personne qui a à cœur d'avoir un impact autour d'elle. Et puis, bon, un de ces outils qu'on a pour ça, c'est en effet de s'impliquer en politique active. J'ai fait le choix de la profession infirmière à la base pour ça, en fait, parce que c'était important pour moi de savoir que lorsque j'allais me lever à chaque matin, que j'allais assurément avoir un impact concret dans la vie de quelqu'un autour de moi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Donc, je suis allée faire une maîtrise en administration publique à l'ENA pour mieux comprendre l'impact, finalement, de notre système de santé, la façon dont les décisions étaient prises en haut de nous, l'impact de cela sur les soins que nous, on offrait à la population. Donc, de là, j'ai développé un réseau politique, en fait, à l'ENAP. Ce sont des personnes qui sont engagées à différents niveaux politiques, souvent qui sont nos professeurs. Et j'ai voulu, donc, suite à cette maîtrise, développer des habiletés politiques. Donc, j'ai commencé à m'engager dans des organisations à but non lucratif, dont le réseau des entrepreneurs et professionnels africains, par exemple. Et puis, de là, vraiment, à débouler d'autres implications à Force Jeunesse, etc., à la Jeune Chambre, et finalement, qui m'a permis de développer des compétences que je ne développais pas nécessairement au travail. Donc, j'ai développé certaines compétences en parallèle et je crois que c'est tout ça, en fait, qui m'a amenée à être une candidate pertinente pour les gens de Côte-des-Neiges NDG.
Et vous avez rencontré quelqu'un qui a été votre mentor. Parlez-moi de lui, c'est Rémi Trudel. Oui. Il est vraiment devenu votre mentor. Pourquoi?
Monsieur Trudel est un professeur de l'ENAP et puis ses cours sont très, très concrets. Hein. Monsieur Trudel a été un élu les cours qu'il donnait, c'était en fait des pratiques très concrètes d'un rôle d'élu finalement. Donc, ça m'a marqué. C'est quelqu'un aussi qui nous donne des opportunités à la fois de rencontrer d'autres élus, mais aussi de s'engager. Par exemple, on est allé comparer les systèmes de santé du Québec et les systèmes de santé brésiliens. Donc, il avait toujours des faces très, très créatives en fait, de nous faire apprendre. Monsieur Trudel a aussi été très, au fait de la situation, par exemple, politique en RDC. Donc, je crois que c'est ces éléments-là qui ont fait en sorte qu'on avait des intérêts communs, disons, où on a discuté souvent, où je me suis souvent impliquée dans les différentes activités qu'il organisait. Et puis, de fil en aiguille, je crois, avec le temps, c'est devenu un mentor, un conseiller, quelqu'un qui prend de mes nouvelles, que j'appelle une fois de temps en temps pour lui demander des conseils également.
Alors, vous avez dû téléphoner à M. Rémi Trudel pour faire le choix et le saut en politique municipale. Racontez-moi comment ça s'est passé, votre décision. Est-ce qu'on est venu vous chercher? Est-ce que c'était tracé devant vous? Logiquement, c'est par là que je dois aller. Comment ça s'est passé, ce choix-là de vous présenter à la mairie et aux élections municipales?
Vous savez, j'ai déjà été dans une conférence où on m'a dit, je crois que pour qu'une femme puisse se lancer en politique, ça prend 7 sollicitations. Mmh. Et je crois que je n'étais pas très loin de ça, en fait. C'est-à-dire, lorsqu'on me voyait engagée dans différentes organisations, je crois que chaque palier de gouvernement, je recevais des appels à chaque élection. En tout cas, à quelques élections, à quelques reprises pour me lancer en politique. Puis je me disais que je n'étais pas prête, que ce n'était pas le temps. En fait, c'était important pour moi de ne pas me lancer en politique pour me lancer en politique, pour être au pouvoir. Je trouvais que ce n'était pas une bonne raison de se lancer. C'était important pour moi, lorsque j'allais le faire ou si je le faisais, de le faire parce que je pensais que ma présence dans un poste politique allait vraiment avoir une valeur ajoutée. Voilà, donc après les quelques sollicitations, cette année qui a fait la différence, je vous dirais qu'on m'a sollicité quand même tôt dans l'année et j'ai dit non au départ. Mmh. J'ai dit non, je pense que le contexte était que j'étais honnêtement épuisée. J'étais gestionnaire dans le réseau de la santé depuis longtemps. Et donc, je voulais garder mes énergies pour soutenir mes équipes qui étaient encore en train de combattre la pandémie. Lorsqu'on m'a demandé, j'ai dit, mais c'est impossible qu'à ce stade-ci, je puisse me lancer en politique. J'ai pas l'énergie pour ça. Sauf que, lorsque j'ai commencé mes vacances, parce qu'on a pu avoir des vacances, quelqu'un a eu la chance, je pourrais dire, de me recontacter à quelques jours du début de mes vacances. Et puis là, je n'étais plus reposée. Et j'ai dit, vous savez quoi? Je vais y réfléchir. Mmh. Puis je vais y réfléchir parce que j'ai constaté, en fait, l'impact du municipal dans la façon, dans notre performance par rapport à la gestion de la pandémie. Donc j'ai dit, vous savez quoi? Je vais y réfléchir parce que, en effet, je pense que mon parcours est pertinent. Et puis voilà. Donc de là, on a commencé les discussions avec Projet Montréal pour voir où je souhaitais me présenter. Et c'était pas facile quand on parlait de Côte-des-Neiges NDG. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. On m'a donné l'opportunité aussi, et ça, c'est un élément important. On m'a laissé poser toutes mes questions pour me rassurer. Au bout de ce processus, finalement, mon fiancé m'a accompagnée là-dedans. Et puis, à un moment donné, il me disait, mais Gracia, t'as parlé à tellement de personnes. Je le sais que t'as envie de le faire. Fais-le. Et donc, j'ai assumé que c'est quelque chose qui me tentait. Et puis, j'ai accepté. Et vous savez, juste un dernier élément aussi qui, je pense, facilite le fait que des personnes issues de la diversité, notamment, se lancent. C'est le sentiment que j'avais que je ne serais pas la seule personne noire à me lancer. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a des personnes que je respecte énormément qui avaient pris la décision de se lancer également. Mm-hmm. Je pense à Erika Alneus, par exemple, à Martine Moussao. À ce moment-là, il n'y avait pas encore Madame Olivier, mais je voyais plusieurs personnes que je respecte, que je vois engagées à différents niveaux, qui avaient décidé de se lancer aussi. Donc, j'ai dit, vous savez, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Je ne serai pas la seule noire quelque part, parce que ça peut être une charge mentale assez importante.
Oui, tout à fait.
Et, c'est un élément qui a fait la différence.
Alors justement, j'en suis là. Quand vous entendez le lendemain de vos élections remportées à 212 voix par majorité, on dit aux informations la première femme noire à la tête de l'arrondissement. Donc qu'est-ce que ça vous fait ? Ça vous donne une fierté ou ça vous chagrine d'avoir cette phrase-là?
Je crois que c'est assez... C'est quand même étonnant qu'un arrondissement comme celui-ci, je sois la première à ce stade-ci de la vie de l'arrondissement. Cela étant dit, je suis fière, en fait, de cet élément, mais je suis surtout fière et contente de voir, en fait, lorsque je faisais mon porte-à-porte, en fait, de voir les yeux des parents ou des enfants briller lorsque... ils ouvraient la porte et que c'était moi la candidate. Je sens en fait que ça va amener d'autres personnes à réaliser qu'elles, ils ou elles peuvent en fait devenir briguer finalement des postes électifs également et que c'est possible. J'aimerais bien rencontrer des jeunes pour leur montrer que c'est possible et qu'on a toutes les qualités, les compétences, l'historique nécessaire pour être en mesure de briguer un poste politique au Québec.
Alors, qu'est-ce que vous voulez faire dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, vos priorités pour cet arrondissement?
Un élément que je pense qui va me suivre pendant tout mon mandat, c'est le fait que je suis entrée en mandat et quelques semaines avant, en fait, il y a un jeune garçon qui s'appelle Janaï de Poelbélé qui s'est fait assassiner finalement devant son école sur le territoire. C'est quelque chose que, pour moi, je crois beaucoup au fait que parfois les astres s'alignent pour certaines choses et je crois que ça c'est un message très fort qu'il va falloir prendre soin, s'assurer de prendre soin de nos jeunes dans l'arrondissement, particulièrement suite à la pandémie qui affecte énormément de personnes. Mais peut-être, je sais que mon rôle comme mairesse d'arrondissement, ça va être de travailler avec les organismes communautaires qui travaillent auprès d'eux pour s'assurer qu'on les soutient. Donc ça, c'est un élément. J'ai parlé des organismes communautaires. Moi, je vois mon rôle de mairesse comme un rôle de facilitatrice, en fait, par rapport au travail qui est déjà très bien fait, qu'ils aient, en fait, les ressources, les réseaux, qu'il leur faut pour encore mieux jouer leur mission. Tout l'aspect de la qualité du service rendu aux citoyens, c'est quelque chose sur lequel je vais vouloir travailler. Beaucoup de personnes me contactent déjà de leur donner un retour dès que possible, de considérer leurs propositions. Donc, améliorer le service qu'on rend aux citoyens, ça va être aussi au cœur des priorités que j'ai partagées avec les services ici dans l'arrondissement.
Merci, Gracia Kasoki Katawa, et bon mandat à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Merci.
Merci, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Depuis plusieurs années, Yves Letellier, résident de La Tabatière, en Basse-Côte-Nord au Québec, récupère des bouts d'iceberg et puis les conserve dans son congélateur. Drôle d'idée, me direz-vous, mais pourquoi donc fait-il ça? Eh bien, il les utilise pour se faire tout simplement de bons drinks, un plaisir qui a de quoi devenir contagieux, si bien qu'il en parle avec bonheur dans la voix. Si Yves Letellier conserve de la glace d'iceberg pour son propre plaisir, il n'est pas le seul. Il existe bel et bien un marché pour ce type de récolte, particulièrement du côté de Terre-Neuve et Labrador, qui est en face donc de la Tabatière. Il y a quelques 1300 km de Québec, c'est pas tout près. Par exemple, la microbrasserie Quidi Vidi à St. John's à Terre-Neuve produit notamment une bière blonde à partir de l'eau d'iceberg, vieille de plus de 20 000 ans, assure-t-on sur la bouteille. Et d'autres entreprises produisent également d'autres boissons alcoolisées fabriquées à partir de l'eau d'iceberg. C'est un marché qui semble rapporter aux chasseurs d'iceberg. Un journaliste de l'AFP, l'agence France-Presse, Julien Besset, nous cite le capitaine Edward King qui a su tirer profit de la fonte des glaciers du Groenland. Son équipage a même récolté en 2019 près de 800 000 litres d'eau durant la haute saison des icebergs. Yves Letellier ne vend rien, mais yeute jalousement ses icebergs en ouvrant son congélateur. Il se raconte au micro de Pénélope Clermont.
Ben, moi, c'est pour mes drinks, là, comme un bon scotch whisky là, à Burfield Lee, ou ben non, un bon gin comme le Saint-Laurent de Rimouski. Celui de Bécomo aussi. Là.
Puis est-ce que c'est une pratique courante en Basse-Côte-Nord de récupérer des bouts d'iceberg pour ses drinks?
Ça, c'est une bonne question, je ne sais pas. Il faudrait poser la question à la population, là, mais moi, en tout cas, je trouve ça tellement fantastique de boire de l'eau d'iceberg. Là, puis c'est quand tu le casses, le bruit que ça fait aussi, là, c'est pas comme de la glace que tu as dans ton congélateur, là, pas du tout. Là.
On m'a expliqué même que ça dégageait un certain pétillement, là, justement, quand le liquide entre en contact avec la glace, c'est ça?
Oui, c'est ça. Premièrement, quand j'en fais, je le garde toujours en bloc, je le casse pas en petits morceaux. Là, je le sors, puis je me fais un morceau de la grosseur du verre que je vais prendre, évidemment, là, à peu près. Là. Je prends mon couteau, puis je fais des lignes dessus pour le marquer. Après ça, je donne un bon coup au centre, puis ça fait un beau carré ou un rectangle. Fait que là, je le mets en carré pour le mettre dans mon verre. Ensuite, je verse mon gin ou mon whisky, mon scotch ou le bourbon dessus. Puis là, juste l'effet de la chaleur, là, il va craquer. Paf! Là, il fait comme une explosion. Là. Après ça, là, il commence à fondre tranquillement. Puis si tu mets ton oreille, là, c'est comme si tu buvais du Pepsi. Là, tu sais. C'est des bulles d'air qui sont emprisonnées dans la glace depuis des milliers d'années. Puis la glace iceberg, elle n'est pas faite juste par de la pluie ou de l'eau, de l'eau douce là, qui gèlerait. C'est plutôt par... les couches de neige avec des milliers d'années, ça compresse toute cette neige-là, puis ça devient en glace. Puis là, il y a de l'air là-dedans, ça fait que ça fait toutes des petites bulles qui explosent là, quand elles sont sous pression. Anyway. Fait que quand ça fond, là, pouf, quand tu l'entends péter, là, c'est impressionnant.
Est-ce que ça fait longtemps que vous récupérez de la glace d'iceberg comme ça pour faire vos drinks?
Ben vois-tu, moi, je suis arrivé en 90 ici à la tabatière. Oh, ça fait pas bien ben longtemps. Là. Je dirais à peu près 8-9 ans là, que j'en ramasse là, quand il y en a.
Puis où vous avez entendu parler de ça? Ou c'est vous qui avez eu l'idée d'en
boire? Non, c'est moi. Oh, oui. Alors, il faut que je bois mon drink avec ça, c'est certain.
Vous allez peut-être instaurer une tradition, qui sait, en Basse-Côte-Nord.
Ah, ce serait le fun.
À quel endroit vous avez récupéré ces bouts-là que vous avez présentement?
Ça dépend parce que les icebergs, ils suivent les courants puis les vents. Hein. Ça fait que là, quand ils arrivent là, de la mer du Labrador, ben, ils prennent le détroit de Belle-Île puis là, ils descendent. Ça fait que si les vents sont bons, ils vont descendre jusqu'à chez nous. J'ai eu les courants. Puis ben, souvent, ils échouent sur les rifs, là, les hauts fonds. Puis là, ils restent là jusqu'à temps qu'ils fondent, puis qu'ils cassent, puis qu'ils tournent. Puis là, ils reprennent la mer. Ça fait que quand ils sont bien, bien ancrés, ben, là, c'est facile d'y aller. Tu sais que le lendemain, ils vont être encore là. Là. Fait que je pars en bateau, puis je me rends là-bas, puis je prends ma hache, puis je casse des morceaux, là, ça tombe dans l'eau, j'en casse. Après ça, j'y ramasse avec mon filet, puis je les mets dans mon cooler, là, puis je reviens avec ça.
Et contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a rien de salé hein, dans cette eau-là, c'est vraiment de la glace là, pure. Là.
Exactement, oui. Puis quand des fois, bien souvent, tu vas voir un iceberg, là, il y a une grosse ligne bleue dedans, là. Ça, c'est de l'eau pure. Okay. C'est, tu vois à travers comme une vitre, là. C'est incroyable. Cette glace-là, elle dure plus longtemps que la glace ordinaire de congélateur.
Est-ce qu'elle peut finir par goûter le congélateur comme peut le faire la glace ordinaire?
Ah, c'est un autre petit détail que j'ai oublié de te mentionner. Quand ça fait plusieurs mois ou années là, que tu l'as, comme là, moi, j'en ai depuis 2019, ben, je la passe en dessous de l'eau.
Ah oui, OK.
Je passe mon morceau, puis là, je le rince en dessous de l'eau un petit peu. Là il craque en tabac. Il n'aime pas ça pantoute. Fait que là, ça l'enlève le goût s'il y en a. Mais j'ai jamais goûté le congélateur.
Voilà, on sait tout des mystères de l'iceberg dans le congélateur. Une fois l'entrevue terminée, M. Letellier m'a précisé qu'il y avait de la poussière d'étoiles dans la glace et possiblement des bactéries et des virus qui remontent à très longtemps. C'est pourquoi il la déguste avec de l'alcool fort, dit-il.
Notre journaliste Pénélope Clermont a contacté M. Letellier après avoir lu sur Facebook qu'il répondait en fait à une invitation de Tourisme Côte-Nord qui était à la recherche d'un résident de la base Côte-Nord qui aurait, par hasard, dans son congélateur, un bout d'iceberg, eh bien, des morceaux de l'iceberg de M. Letellier ont même voyagé jusqu'à Montréal et ont pris la vedette lors de l'émission télé « Ça finit bien la semaine », justement co-animée par la porte-parole de Tourisme Côte-Nord.
Ils voulaient qu'on amène la glace, la casser tout en petits morceaux d'une grandeur de verre, la préparer toute pour l'émission, que ça soit tout fait pour que... qu'il n'y ait pas de problème avec ça là-bas. Mais vois-tu, quand tu casses la glace en petits morceaux, tu réduis sa capacité de garder sa froideur. Sa froideur. Elle peut fondre plus vite. C'est plus dangereux de la perdre. T'sais.
Mais en tout cas, il est supposé de le faire pour moi. J'ai montré comment. Je suis allé chez lui. On a pris un morceau, parce que j'en avais deux morceaux, à peu près de 10 pouces carrés, les deux. Puis, j'ai montré comment la casser. Là. C'est comme je t'ai expliqué, avec le couteau, faire des lignes, puis la fendre après ça. Là. Ça se fait très, très bien.
En ce qui a trait à la réserve de glace de M. Letellier, on lui souhaite de pouvoir la garnir à nouveau, lui qui n'a pas vu d'iceberg à proximité de la côte depuis 2019. Dans ce dernier extrait, il nous parle de la dernière fois, oui, qu'il en a rencontré un.
J'ai eu tellement des beaux icebergs. Mon dernier, il est à peu près 200 pieds de long par 70 pieds de haut, en descendant dans une petite pente, là, puis peut-être à peu près une centaine de pieds de large. Puis sur le côté, il y avait comme une tête de sous-marin, je vais appeler ça comme ça. C'est comme un champignon là, qui serait à côté, mais il faisait toute partie de cet iceberg-là. J'aurais passé entre les deux, mais ouais, je vais poser. Là. C'est assez dangereux aussi quand ça se met à tourner, ça. Là.
Faut quand même pas risquer sa vie pour un drink. Hein?
Non, c'est ça. Je l'aime bien, mon bateau.
Ben, merci encore, M. Tellier. Ça nous fait bien plaisir d'avoir découvert cette pratique avec vous aujourd'hui.
Pas de problème, ça me fait vraiment plaisir.
C'était Yves Letellier, résident de la tabatière, dont les bouts d'iceberg dans le congélateur auront servi à nous instruire.
Vous savez que la réputation de pureté de cette eau d'iceberg est, semble-t-il, surfaite, nous apprend la journaliste scientifique Ève Christian. Selon elle, il est inexact de prétendre que l'eau d'iceberg est la plus pure au monde. Les eaux souterraines sont de bien meilleure qualité que celles recueillies sur des icebergs, dit-elle. Et contrairement à la croyance populaire, ce liquide n'est pas nécessairement bon pour la santé, car il ne contient pas beaucoup de minéraux. Ainsi, boire de l'eau déminéralisée, comme celle des icebergs, aide à se désaltérer, oui. Mais c'est tout, selon Eve Christian, cette eau dans laquelle on ne retrouve ni calcium ni magnésium peut même avoir des effets indésirables sur les muqueuses intestinales, voire contribuer au développement de l'ostéoporose et de l'hypertension, ce qui pourrait augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Alors, attention! Afin de prévenir le harcèlement sexuel au travail, la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick et le Service public d'éducation et d'information juridique du Nouveau-Brunswick ont lancé la semaine dernière le site web éducatif Lieu plus sûr. L'objectif étant d'éduquer les employeurs et les employés sur les manières de réagir à un incident ou à une plainte de harcèlement sexuel. Le programme vise également à appuyer les besoins des communautés LGBTQ+, en milieu de travail. Lieu plus sûr Nouveau-Brunswick a été élaboré suite à des consultations menées auprès des intervenants au sujet de l'enjeu du harcèlement sexuel au travail. Le projet de 5 ans est financé par Justice Canada. Toute forme de harcèlement a des effets dévastateurs sur toutes les personnes concernées, souligne Marc-Alain Mallet, directeur de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick. Compte tenu des changements démographiques, nos lieux de travail sont beaucoup plus diversifiés, dit-il. Cette ressource permettra aux employeurs de se concentrer sur le mieux-être de leur personnel. Judy Desalliers reçoit Amber Chisholm, directrice générale par intérim du Service public d'éducation et d'information juridique du Nouveau-Brunswick.
Bonjour Amber.
Bonjour Judy.
Donc, pouvez-vous nous parler un petit peu plus de Lieu plus sûr Nouveau-Brunswick? Pourquoi avez-vous décidé de lancer un site comme celui-ci?
Oui, c'est un projet qui est financé par le département de justice du gouvernement du Canada. Et c'est, il y a un but d'éviter et aussi éduquer les personnes sur comment réagir après avoir eu une incidence de harcèlement sexuel au milieu du travail ou une plainte de harcèlement sexuel. On croit que les sortes de harcèlement sexuel ne sont pas toujours identifiées comme harcèlement sexuel. Il y a des sortes de comportements, les commentaires et les gestes qui ne sont pas toujours traité comme un problème dans le milieu du travail. Peut-être il y a c'est normalisé ou il y a des personnes qui pensent qu'ils sont seulement des gestes ou des commentaires simples. Alors, on a vu une nécessité de fournir des matériaux en ligne, mais aussi par des formations en personne pour éduquer les personnes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils voient des incidences de harcèlement sexuel ou s'ils ont expérimenté une incidence aussi?
Et ça, est-ce que vous croyez que ça va ouvrir les yeux de certains? Est-ce que vous croyez que ça va changer les choses quant au harcèlement au travail?
J'espère que oui. Il y a beaucoup de matériaux pour éduquer le public, mais aussi les employeurs, parce que les employeurs, ils autres doivent être informés sur leurs obligations légales et aussi les conséquences si on ne réagisse pas dans la façon nécessaire et une façon qui est légale, mais qui aussi a un but de supporter les employés, tous les employés, quand il y a une incidence. Alors oui, je pense qu'il y a des matériaux ici qui sont très uniques. Par exemple, on a des matériaux qui sont au but spécifiquement d'identifier les sortes d'harcèlement qui sont expérimentés par la communauté LGBTQ et comment certains commentaires ou gestes ou questions dans le milieu du travail ne sont pas appropriés, mais ne sont pas toujours traités comme un harcèlement sexuel.
Donc, c'est pas seulement pour les employeurs, mais aussi pour les employés.
Oui, exactement. On a de formations et aussi des matériaux qui ont un but directement pour d'informations pour les employés, mais aussi des informations spécifiquement pour les employeurs et quelles sont leurs obligations aussi.
Parfait. Pour les employeurs qui seraient intéressés à offrir la formation, où est-ce qu'ils peuvent s'inscrire?
Ils peuvent s'inscrire sur le site web, c'est lieuplussurnb.ca, et nous contacter là. Il y a une formation en ligne que les personnes peuvent prendre à leur propre temps, mais aussi ils peuvent nous contacter par le site web pour demander une formation en personne, par Zoom, pas en personne, mais c'est facilité par une vraie personne. En temps.
Et c'est un projet de 5 ans. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite? Est-ce que vous croyez que ça va quand même se poursuivre?
C'est un projet de 5 années et nous sommes dans la troisième année. Alors, on espère que pour au moins 2 autres années, on a des fonds et des ressources pour supporter ce projet avec plusieurs d'autres pour éduquer et informer le public. Mais après ces 5 années, un but de ce projet, c'est d'être certaine qu'on peut encore offrir cette information après le temps du projet elle-même. Ces 5 années sont finies.
Parfait. Donc, ça va se poursuivre. On va continuer d'en apprendre davantage, d'avoir des formations, j'en suis certaine. Donc, merci, Amber, de nous en avoir informé. On vous rappelle, pour tous ceux qui nous écoutent, lieuplussurnb.ca pour tous les intéressés. Merci encore, Amber.
C'est ça. Merci beaucoup, Julie.
Voilà qui conclut cette édition de Point de vue, produite avec le concours des équipes radio de l'initiative de journalisme local postée à travers le pays. Cette émission est rendue possible grâce au concours du Fonds canadien de la radio communautaire. Suivez toutes nos nouvelles sur canada-info.ca, canada-info.ca. Vous savez que les reportages qu'on vous fait écouter ici ne constituent qu'une infime partie de ce qui est produit au quotidien par nos journalistes, lesquels travaillent d'ailleurs dans les deux langues. On vous invite à nous suivre sur Twitter, @CanadaLJI, CanadaLJI. Vous pouvez aussi vous abonner à nos balados sur vos plateformes préférées. On remercie nos journalistes Judy Desalliers, Sophie Stanquet et Pénélope Clermont, de même que leurs invités, aux artistes qui nous offrent leur musique, nos compliments. Merci à Stéphane Bénard, notre coordonnateur à l'info. Ici Boris Chassagne, à l'animation et à la réalisation, qui vous dit à la semaine prochaine.
must be nice.
Tierra, tres metros bajo tierra, por una mata hierba, me echaron a pelear los gallos de este ruedo, siempre la están cantando, pero ellos desde el norte nos tiran a pelear. Como ese sol sin sombra, así era mi destino, le enteré porque el negocio de pobre me sacó, rezaba yo mi santo para llevar mi encargo. ¿Dónde está el castigo si aquí enterrada estoy?